9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Il a fallu près d'un an pour que le comédien Philippe Cobert sorte innocenté d'une enquête pour viol. Mais il a suffi de quelques minutes pour que sa réputation soit ternie à jamais par la parole d'une jeune femme qui paraissait crédible. La vidéo est toujours en ligne. Face aux journalistes, elle affirmait aussi que l'acteur torturait et tuait des prostituées. Philippe Cobert ce matin témoigne de ce mauvais polar et ça fait réfléchir sur la responsabilité de chacun face aux accusations sans preuve. Son nom vous est familier, Martine Laroche-Joubert a été pendant 33 ans grand reporter à France 2. Elle a parcouru le monde, fait toutes les guerres et nous livre ses mémoires. Le nom de ses héros vous est familier, les Bidochons. Depuis plus de 40 ans, le dessinateur Christian Binet les fait vivre. Ça continue avec un 22e tome, les Bidochons relancent leur couple. Enfin, au cinéma, mercredi prochain, vous allez rire et applaudir aux crevettes pailletées. Improbable histoire d'une équipe de waterpolo gris qui traverse l'Europe. Mais c'est la vraie histoire de Cédric Le Gallo qui a réalisé le film et sera en direct avec nous.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Philippe Cobert.
Bonjour.
Comédien, auteur, metteur en scène, extraordinaire parcours de théâtre commencé en 68, talent révélé au Théâtre du Soleil, 1789, Molière, Don Juan, Lorenzo Accio, puis cette saga autobiographique commencée il y a 38 ans avec La Danse du Diable et qui se poursuit encore aujourd'hui avec Adieu Ferdinand. Mais quand on inscrit votre nom sur la toile, la première chose qui apparaît, ce sont des accusations de viol et d'agression sexuelle avec la vidéo de votre accusatrice toujours en ligne. D'abord, racontez-nous, Philippe Cobert, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme public qui est sur scène, face à des spectateurs, vous êtes en tournée, quand de telles accusations surgissent?
D'abord, je n'ai pas cru. J'ai cru que c'était une blague parce que j'ai su ça par mon attaché de presse, Linda Mignot, qui m'a dit, l'a dit à Véronique, ma femme, qui est mon assistante, qui est Philippe accusé de viol. Et puis voilà, et puis on va se coucher après le spectacle, et puis à 8h du matin, mon téléphone, ou 7h du matin, sonne dans ma chambre d'hôtel, ce qui m'arrive. Alors généralement, je suis plutôt protégé. Véronique me dit, non, c'est pas des blagues, il y a, je sais plus, 100 articles dans tous les journaux, c'est partout. Alors par contre, je crois qu'elle avait obtenu le nom de cette fille et que je me suis rappelé tout de suite, en effet, d'avoir Solveig, je me rappelais son prénom, c'est un très beau prénom d'une fille que j'avais rencontrée, en effet, 10 ans avant, avec qui j'avais eu une histoire, on s'était vu 2-3 fois, bref. On avait beaucoup, ce jour, on s'était écrit, j'avais eu un coup de cœur, etc. Et puis je l'avais reaperçu une fois, puis je lui avais proposé de venir me voir et tout, il n'y a pas eu de suite, mais j'étais complètement, je suis tombé des nues, et surtout, de la violence des accusations. Alors moi je n'ai pas tout regardé en détail, mais j'ai lu quelques journaux, les journalistes évidemment ont tous appelé. Moi, j'ai décidé que j'allais parler. Alors, il paraît, d'après mon avocate, que j'ai dit des conneries, mais ça, voilà, tant pis. Je dis, j'ai aucune raison de me taire. Donc, j'ai répondu un peu ce que je vous dis là, c'est-à-dire, mais je tombe des nues, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de truc. Enfin, c'est pas dans ma culture, c'est pas dans ma religion, c'est pas dans mes moyens. C'est vraiment, pour moi, le viol, c'est un crime. Ça, c'est même pas. Est-ce que c'est un acte sexuel, peut-être dans le Marquis de Sade, mais pas dans la vie.
Philippe Cobert, vous continuez vos spectacles?
Ah ben, le soir même, je jouais le soir. Mais si vous voulez, c'est comme un coup très violent, ça fait pas mal sur le coup, c'est plus tard après que ça pose des problèmes. Mais sur le coup, j'étais au Théâtre de Liberté à Toulon.
À Toulon.
J'ai dit tout de suite, moi je veux parler aux gens, je veux parler au public, parce qu'ils ont obligatoirement vu ça dans les journaux, etc. Donc on a fait une déclaration avec le responsable du théâtre, on a dit voilà, je suppose que certains d'entre vous savent ce qui me tombe sur la tête, je voulais vous dire que je vais l'oublier, on va essayer de l'oublier pendant 2 heures... Si jamais dans la salle il y en avait qui voulaient manifester leur hostilité, pourquoi pas, mais soyez sympas, attendez les saluts pour le faire. Voilà, il n'y a eu évidemment aucun problème, aucune réaction.
Pas de sifflet, pas de manifestation hostile. Les gens vous...
Je crois que c'était tellement violent que tout le monde était sidéré.
Mais vous serez encore plus sidéré par ce qui va suivre, Philippe Cobert, quand des policiers vous apprennent que vous n'êtes pas seulement accusé d'agression sexuelle, mais aussi d'actes de barbarie et de meurtre. On va marquer une courte pause et vous nous raconterez dans un instant.
Europe 1.
Le dimanche, jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain et c'est avec vous, Patrick Cohen.
Avec Philippe Cobert, comédien blanchi des accusations de viol portées par une jeune femme avec qui vous aviez eu une brève relation il y a près de 10 ans. La plainte vient donc d'être classée sans suite. Mais ce que vous découvrez, Philippe Cobert, au moment où l'affaire sort il y a 1 an, c'est que les accusations portées contre vous sont beaucoup plus graves que celles qui ont été médiatisées.
Mais c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas raconter tous les détails, puis cette histoire est un peu pénible, et j'espère qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose de drôle, pourquoi pas, parce qu'elle est, en même temps, tout ce genre d'histoires sont représentatives de la société. Mais en tout cas, donc j'ai été convoqué par les policiers, j'ai été mis en garde à vue.
Vous redoutiez ça ?
Oui, bien sûr, je ne sais pas comment vous dire. Moi, j'ai eu une vie animée, j'ai eu plein de copines, je n'ai jamais caché en plus, c'est ma philosophie. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait des conneries ? Est-ce qu'il y a des trucs, des machins ? Enfin, oui, bien sûr. Et puis quand même, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés dans mon intimité, dans mes courriers, dans mes trucs. Et puis en effet, une garde à vue, bah, après, avec saisie de l'ordinateur, du téléphone, enfin, des tas de choses, tout ça est très long. Tout ça pour ça, quoi. C'est, on se dit pour quand même des. Et en effet, quand j'ai été mis en garde à vue, bon, j'ai eu affaire à des policiers qui étaient très, très courtois avec moi, très, très, très gentils, même, je dirais, mais qui étaient fermes, qui m'ont expliqué qu'il voilà, il fallait aller au bout du truc. Et là, j'ai entendu, en effet, des accusations qui étaient complètement surréalistes, de prostituer des filles, de les attacher à un radiateur et les faire frapper, jusqu'à monter des prostituées dans mon appartement, les assassiner, enfin des.
Des accusations, vous venez de les résumer. Lors de la perquisition chez vous, pendant la garde à vue, ce que cherchent les policiers, c'est...
Oh ben ils cherchent une chambre de torture, puisqu'il y avait une chambre, elle avait dit qu'il y avait une chambre de torture chez moi. Donc je remonte ma chambre, c'est, j'habitais à 42 mètres carrés à Saint-Mandé. Ce que j'ai dit depuis le début, tous les journalistes au Théâtre de Paris le connaissent, parce que quand je fais des interviews, c'est chez moi, la porte est ouverte, voilà, on va boire un café à la cuisine, on voit la chambre. Voilà, elle dit qu'il y avait des masques de mort, il y a un masque baliné de théâtre, et en effet, il y a une peinture des reproductions des Gonchil et de Rodin et de... Et puis des photos de Torero, et puis ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire en effet, je représentais à peu près tout ce que cette personne abomine, la corrida, la prostitution, donc il y a des photos des années 20, il y a des choses, voilà, je leur ai montré, et des tableaux, des... Je sais pas,
bon, vous voulez dire que les policiers n'ont pas mis beaucoup de temps à...
Ben, ils ont regardé partout.
À mettre d'abord, par terre ces accusations.
Non, d'abord parce
que
c'est tout petit, donc ils n'ont pas eu beaucoup de... Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Puis je vous dis, une fois qu'ils ont pris l'ordinateur et qu'ils ont photographié mon téléphone, il n'y avait pas grand-chose d'autre à prendre. Voilà, et... Mais encore une fois, ils sont allés au bout. C'est voilà.
Donc, des accusations, vous venez de les résumer, délirantes, gravissimes. Solveig Halloin ne les a pas seulement portées devant les policiers, elle les a portées aussi devant des journalistes qui ont recueilli ces paroles.
Oui, puisqu'il y a même, justement, enfin, c'est une chose qui était insensée, mais il y a une vidéo qui a été faite avant même qu'elle porte plainte. Elle a fait, avec le Huffington Post, le journal, a fait un 52 minutes, comme un film, dont ils ont pris 15 minutes, je crois, qui étaient les plus crédibles, les moins invraisemblables, les moins susceptibles de leur apporter des ennuis, et que cette vidéo est toujours sur Internet, et qu'en effet, quand on va sur Philippe Cobert viol, ben, on tombe dessus, je crois même pas besoin de marquer viol.
Mais dans cette vidéo, il y a aussi les accusations de meurtre de prostituée. Non. Donc ce que vous voulez dire, c'est que le HuffPost a caviardé le témoignage de votre accusatrice pour ne garder que la partie la plus crédible.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire ce qui était vraiment, ce qui dépassait l'entendement était réservé aux policiers ou à la partie du film qu'ils n'ont pas montré. Mais ça a été monté comme un film, comme une bande-annonce. Vous savez, je crois que cette personne, surtout, a trouvé là une façon de faire parler d'elle. Enfin, ça paraît banal ce que je dis, mais c'est la vérité. Ensuite, elle a recommencé d'ailleurs avec les animaux. Elle a été sur des plateaux de télévision. Voilà, moi, quand je l'ai rencontrée, elle se disait dramaturge et comédienne. Et je crois que dans ce domaine-là, elle n'a pas trouvé beaucoup de débouchés. Donc, elle l'a trouvé comme ça.
Est-ce que vous vous dites parfois, Philippe Cobert, que finalement, vous êtes tombé sur les bonnes personnes, peut-être les bons policiers ou la bonne procédure, et que vous avez eu de la chance et que ça aurait pu plus mal tourner pour vous compte tenu de la gravité des accusations portées ?
Oui et non. Oui, parce qu'en effet, ils étaient très, très corrects, etc. Non, parce que j'étais coupable de rien de tout ça, quoi. J'étais coupable de ma vie, mais j'en ai pas honte. Si peu d'ailleurs que je la joue sur la scène, que je fais rire les gens avec ça, mais je veux dire...
Il y a des innocents en prison, vous savez.
Hein. Oui, mais c'est plutôt que, enfin, l'effet que ça produit psychologiquement, c'est-à-dire ça fait douter de tout, de ce qu'on fait, de ce que... Puis vous savez, moi, quand je regarde cette vidéo, je me dis, mais est-ce qu'elle aurait pas raison? Parce que comment peut-on imaginer que quelqu'un, qu'une femme, puisse mentir à ce point-là, avec les détails, avec les... c'est impensable. Moi, j'ai même des amis proches de moi qui m'ont dit, ah ouais, j'ai pensé, peut-être t'as vu un moment de folie, ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais comment tu peux penser ça? Enfin, de la violence. Il y a tous les jours, depuis un an, des gens qui regardent cette vidéo et qui croient, parce que c'est difficile de ne pas croire ça. Et puis, par contre, quand moi, on m'a demandé... Moi, je voulais plus parler de tout ça, parce que ça m'a pris la tête, vraiment, cette histoire, gravement. Et Marie Dosé m'a dit, non, il faut que tu parles, parce qu'il y a quelqu'un qui parle depuis un an. C'est pas bien. Donc, un journaliste de l'Obs a proposé une interview, a demandé une interview en échange d'une exclusivité. Moi, je dis, bon, OK, cette interview n'est jamais passé, c'est-à-dire elle existe, mais il faut payer pour la voir. Si on fait l'Obs Philippe Cobert, on a tous les délires de cette fille gratuits, si j'ose dire, mais il faut payer pour voir ma défense, alors que j'ai vraiment pris soin des paroles que je disais, de ce que j'ai étudié, c'était entendu avec ce journaliste, que je relisais ce que j'avais dit, que je mettais en forme, qu'il y a des choses que je gardais, des choses que je gardais pas, des choses que je complétais. C'était vraiment pour moi une réponse consciente et par rapport à plein de choses, par rapport au mouvement, par rapport à tout, enfin voilà, par rapport à mon idéologie, par rapport à plein de choses, et que cette réponse. Parce que quand même, à cette histoire, si vous voulez, aujourd'hui, l'affaire a été classée sans suite, mais c'est un peu dans la mentalité comme si je m'en étais bien sorti finalement, comme si je m'en étais tiré. C'est pas que je m'en suis tiré, c'est que cette histoire depuis le début est complètement fausse. Est complètement fausse. Alors, faut pas devenir fou, c'est-à-dire faut pas se... donc ça fait partie, ben voilà, de la société d'aujourd'hui, mais quand même, on peut se demander, alors non, la justice, les policiers, etc., ont tous été, pour moi en tout cas... digne de ce que je pouvais espérer. Par contre, sur le plan des médias, là, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'au fond, les journalistes regrettent que je ne sois pas coupable. Parce que c'était mieux. C'était plus intéressant, plus, je ne sais pas quoi, moi, plus, peut-être plus commercial. Et puis, cette idée, il s'en sort. Et ça, c'est insupportable. Des accusations de pédophilie, d'avoir abrité des sites pédopornographiques, des choses... Tout ça parce qu'à une époque, j'ai milité contre la loi stigmatisant les clientes prostituées. Je continue d'ailleurs à penser que c'est une loi scélérate et qui plonge les prostituées dans la merde et dans la misère. Parce que je suis un passionné de corrida. Et que tout ça, sont des thèmes qui sont plus du tout à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire. La mode est au contraire de vilipender les gens comme ça. Donc si vous voulez...
La justice, Philippe Cobert, elle n'a pas fini son travail dans une certaine mesure, puisque elle peut punir les responsables de ce qui vous est arrivé, c'est ce que vous souhaitez ?
Je l'espère, franchement, parce que je trouve que là, c'est au-delà des questions d'hommes et de femmes, on n'a pas le droit de porter des accusations intempestives, n'importe comment, n'importe quoi, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, sur la place publique, sans rendre compte de ça. C'est parce que moi, je peux demain accuser n'importe qui de n'importe quoi, et on me demandera des comptes. Donc pourquoi, profitant du mouvement de libération de la parole féminine et féministe, une personne se sert de ça pour faire du mal, parce qu'il y a une volonté de nuisance évidente, pour exister, comme on dit aujourd'hui. C'est pas bien, et j'ai comme l'impression que chaque parole que je vais prononcer va être jugée en fonction de ça, donc je sais pas, alors faut pas exagérer, hein, je suis pas non plus en prison, mais enfin...
Donc des plaintes en dénonciation calomnieuse ont été lancées contre...
On a porté des plaintes légitimes, oui.
Puisque, Philippe Cobert, vous avez toujours nourri votre théâtre de votre vie, de cette mésaventure, vous allez faire un Un spectacle?
Je pense pas que je vais faire un spectacle, parce que d'abord, moi, j'ai nourri surtout mon théâtre de ma jeunesse. C'est oui. plus que ma vie. Ma vie, elle est, pour l'instant, elle est encore pas dans l'histoire. C'est ma jeunesse. Je suis le témoin d'une époque de liberté, d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, je suis pas sûr que je ferai une pièce là-dessus, mais que je parlerai de tout ce que ça a éveillé en moi et de tout ce que ça, à travers un projet artistique, je l'espère. C'est la seule, chance que j'ai de faire de ça quelque chose qui soit utile aux autres.
Merci.
Merci à vous.
Merci Philippe Cobert.
Europe 1.
Dans un instant, une femme au front, Martine Laroche-Joubert et ses mémoires de grand reporter de guerre.
Europe 1.
Chaque dimanche de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen. Vous écoutez C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Martine Laroche-Joubert.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Voilà plus de 30 ans que votre voix et vos images nous accompagnent, images de conflits. Très souvent, de pays en guerre. Mais ce n'était pas une vocation de devenir reporter de guerre pour Antenne 2, puis France 2. Comment ça s'est fait? Comment c'est venu?
Vraiment, petit à petit. Alors toujours, on m'a fait remarquer, mais finalement, tu as commencé tes reportages de guerre à 37 ans. Je dis, quoi? Mais non, j'ai commencé bien avant. Et puis non, finalement, j'ai vraiment commencé à 37 ans. D'abord, j'ai fait des très longues études. Hein, voilà, j'aimais bien étudier. Et puis voilà, j'ai fait du théâtre. Et puis bon... J'ai commencé le journalisme, mais pas du tout par vocation, dans le service économie du quotidien de Paris, et puis à la télé, dans une émission de rock'n'roll avec Michel Lancelot.
Oui.
Voilà, c'était d'ailleurs assez décalé, disons, comme émission.
Oui.
Et puis oui, après...
Elle a été suspendue parce qu'il oui. y avait trop de substances consommées apparemment sur le plateau.
Exactement. Et puis après, j'ai commencé dans le service des informations générales. J'ai couvert la mort de Messrine, l'enlèvement du baron Empain, l'affaire Boulin. Bon, je trouvais ça intéressant, mais... Voilà, je pensais que d'autres pouvaient le faire aussi bien que moi. Mmh. Et puis petit à petit, on m'a envoyé sur des reportages un peu risqués. Je pense par exemple en Haïti en 1987, où il y avait des élections qui ont été interrompues par des tontons macoutes, qui ont découpé des gens à la machette devant nous. Donc voilà, et là, finalement, dans ce genre de situation terrible, atroce, je n'ai pas paniqué et j'ai senti que je pouvais faire des reportages qui pouvaient être inédits, qui pouvaient être intéressants. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mais vraiment, petit à petit, hein, je n'avais pas jamais pensé être reporter de guerre avant.
Haïti, déclic dans votre vie de reporter, pays qui a connu beaucoup de malheurs, mais pays très attachant. Il vous est arrivé, Martine Laroche-Joubert, dans votre vie de reporter, de vous dire qu'on n'allait pas toujours aux bons endroits, que certains pays mériteraient davantage d'être montrés?
Oui, ça m'est arrivé, mais il faut savoir que dans les rédactions, il faut toujours se battre hein, pour aller sur des reportages. Oui. Vraiment, parce que dans les rédactions, bon, quelquefois, il peut y avoir des patrons de presse un peu frileux. Ces guerres-là, ça ne les intéresse pas tellement. Ils n'y sont jamais allés, d'ailleurs, ils n'ont aucune envie d'y aller. Donc déjà, il faut souvent se battre contre les directeurs de la rédaction, contre les rédacteurs-chefs, contre les financiers qui ne voient pas du tout pourquoi on dépenserait de l'argent pour envoyer des reporters au bout du monde. Donc, alors que finalement, c'est vraiment un métier indispensable. Il faut aller voir. Sinon, on ne peut pas comprendre le monde. On peut pas, si on n'envoie pas de journalistes pour se battre contre les fake news, pour endiguer ce flot d'informations, les gens ne seront pas bien informés. Ça, c'est sûr.
Et vous êtes allé voir, vous en Bosnie, en Irak, pour les deux guerres du Golfe, en Afghanistan, en Rwanda, en Libye, en Syrie. Le titre de vos mémoires au Cherche Midi, c'est « Une femme au front ». Une femme. Vous n'étiez pas nombreuse à faire ce métier-là dans les années 80?
Pas très nombreuse. Maintenant, il y en a beaucoup
davantage,
plus.
Oui.
Oui, il y en a davantage. Alors, souvent, c'était... On nous envoyait, mais ce n'était pas forcément pour des bonnes raisons. Je me souviens, pendant la première guerre du Golfe, c'était au mois d'août. Donc, d'ailleurs, j'étais en vacances à Biarritz. Hein, c'est mon père que j'étais en train de nager. Puis mon père est entré dans la mer et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Saddam Hussein vient d'envahir le Koweït. » Oh là. Donc, je suis sortie de l'eau, j'ai téléphoné à la rédaction, je suis rentrée à Paris. Le visa pour l'Irak se faisait un peu attendre. Donc, j'ai décidé d'aller en Arabie Saoudite. Ils se sont demandé, mais est-ce que c'est très prudent? Est-ce que c'est bien d'envoyer une femme en Arabie Saoudite et tout ça? Et finalement, la question ne s'est pas posée parce qu'il n'y avait aucun homme disponible. Donc, finalement, souvent, les femmes sont parties au début, d'abord parce qu'on voulait vraiment y aller, et puis il n'y avait pas souvent des hommes disponibles à ce moment-là. Et puis, voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça.
Là, la question ne s'est pas posée, mais il vous est arrivé d'entendre des chefs dire « Là, non, c'est trop compliqué ou trop dangereux, on ne peut pas envoyer une femme ».
Non, finalement, ils s'y sont habitués très très vite. Il y a même eu quelque chose d'assez étrange, c'était pendant la guerre du Liban, dans les années, quand il y avait eu les enlèvements de journalistes. À la rédaction, je ne sais pas pourquoi, ils s'étaient imaginé que le Hezbollah n'enlèverait pas de femmes. Très bien. Donc du coup, on partait en équipe de femmes. Donc c'était assez étrange, ouais. Mais nous, on était tout à fait d'accord avec ça.
Ouais, il y a le danger, Martine Larojoubert, mais il y a aussi parfois l'horreur, la cruauté des situations. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être tenté de détourner les yeux parce que c'est des situations épouvantables? Enfin, vous décrivez quelques situations, là. Je pense notamment au Rwanda, quand vous arrivez dans ces camps après le génocide, mais... ça vous est arrivé
Ça m'est arrivé. C'est un métier, c'est très difficile parce qu'il faut se blinder, parce que sinon on n'arrive plus à faire ce métier, parce que si on laisse les émotions nous gagner, on n'arrivera plus à prendre les bonnes décisions. Et en même temps, le danger en effet est arrivé de trop se blinder. Par exemple, ça m'est arrivé au Zaïre. Vraiment, c'était une vision épouvantable de gens qui fuyaient. Les massacres, etc., des femmes, des enfants dans la forêt qui mouraient de faim sous nos yeux. C'est difficile à filmer, c'est compliqué. Et moi, finalement, j'étais là et à un moment, j'ai vu un photographe qui prenait un bébé qui était dans la file et qui l'a emmené lui-même dans le poste de secours, un poste de secours complètement démuni. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait? Moi, je ne suis même pas capable de faire ça, Je n'ai même pas pensé prendre ce bébé et l'emmener. Est-ce que finalement, je ne suis pas trop blindée? Et évidemment que j'étais trop blindée. Donc ça pose comme ça des questions. Il faut réussir. L'émotion, on doit quand même la laisser entrer. Sinon, on n'est plus digne du métier de journaliste.
Oui, il faut laisser entrer l'émotion, oui. Et en même temps, essayer de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on montre et ce que l'on dit. Et d'ailleurs, est-ce qu'on le fait encore de façon suffisante aujourd'hui? Est-ce que ce métier, en évoluant vers plus de rapidité, plus d'instantanéité, n'a pas changé par rapport à ce que vous avez connu, vous, il y a 30 ans, Martine?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que finalement, quelquefois, la rapidité, quand il faut tourner vite, finalement, comment dire, nous, on va à l'essentiel. On ne perd pas de temps. Et... je ne pense pas que ça ait vraiment, vraiment changé. Ce qui a changé pour nous, c'est bon, les moyens de diffusion, les choses comme ça. Mais autrement, il faut être au bon endroit, au bon moment, raconter une histoire, essayer de la transmettre le mieux possible, de faire justement passer les émotions, ce que l'on ressent. Ça n'a pas changé. Il y a 30 ans, c'était comme ça et c'est toujours comme ça.
Après toutes ces années de voyage, de reportage, de prise de risque, Martine Larojoubert, vous ne décrochez pas. Est-ce qu'il serait indélicat de dire aux auditeurs quel est votre âge?
Non, non, pas du tout. J'ai 72 ans.
Incroyable. Alors, vous avez quitté la télévision publique il y a deux ans seulement.
Deux ans, voilà.
Vous étiez encore à Raqqa pour France 2.
Il m'avait demandé de partir le jour de mon anniversaire, d'ailleurs, le 7 mars. J'avais dit, ah non, je voudrais partir en juin. Parce que je savais que les Kurdes allaient prendre Raqqa en juin. Je le savais, j'ai de bons contacts avec eux, je le savais. J'ai demandé donc à rester jusqu'en juin. J'ai d'ailleurs eu un peu de mal. Hein, l'administration, elle ne comprend absolument pas ce genre de choses. Donc finalement, je suis restée. Je suis bien rentrée avec les Kurdes à Raqqa en juin.
Et vous allez y retourner?
J'espère y retourner, oui, oui. J'espère y retourner, oui, oui, en journaliste indépendante, freelance. Donc, j'espère y retourner parce que là-bas, à Raqqa, il y en a pas mal qui pensent, alors c'est souvent comme ça, mais enfin, ils pensent quand même que c'était mieux sous Daesh parce qu'ils ont tout perdu, hein, avec les bombardements. Puis en plus, les bombardements ont fait pas mal de victimes civiles. Donc, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de sécurité. Ils s'entassent dans des camps. Et certains nous disent, oui, finalement, c'était mieux sous Daesh, sur le plan de la sécurité sûrement. Mais je pense qu'en plus, il faut faire attention à ce genre de situation, les politiques et tout ça. Si on laisse trop ces gens dans la nature, en plus dans des endroits où, de toutes les façons, l'islam est un islam extrêmement conservateur, ça risque de mal tourner. Les politiques ne pensent jamais au jour d'après.
Une femme au front, vos mémoires d'une reporter de guerre viennent de paraître au Cherche Midi, Martine Larojoubert. Mais les mémoires, c'est généralement, c'est quand c'est terminé, vous continuez. Et c'est assez extraordinaire. Je suis vraiment très heureux de vous avoir accueilli ce matin. Merci à vous. Et
Europe 1.
Et la suite, dans un instant, vous allez découvrir qu'un film gay avec une bande d'homo qui joue au waterpolo peut être un grand et bon divertissement populaire. Ça s'appelle Les crevettes pailletées, ça sort mercredi prochain et on en parle avec son réalisateur Cédric Le Gallo.
Europe 1.
C'est arrivé demain.
Europe 1.
C'est arrivé demain, continue jusqu'à 10h sur Europe 1 avec vous, Patrick Cohen.
C'est un baiser barbu dans une piscine avec bonnet de bain professionnel et ballon de water polo. Vous n'avez pas pu rater ce cliché à la une de l'Équipe Magazine ce week-end pour ouvrir un dossier contre l'homophobie dans le sport. Et le barbu à gauche, c'est vous. Bonjour Cédric Le Gallo.
Bonjour.
Elle est magnifique cette photo, elle suscite beaucoup de réactions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Oui, alors c'est vrai que je l'ai faite avec un de mes coéquipiers de mon équipe de water polo. Et...
à la piscine Molitor à Paris.
Exactement.
J'ai vu ça.
Et alors, ce n'est pas la piscine où on s'entraîne. Non. Nous, on s'entraîne dans une piscine municipale. Mais oui, c'est vrai que j'avais l'impression de le faire de manière très naturelle, puisque voilà, c'est mon quotidien. Alors, non pas que j'embrasse mes coéquipiers tous les jours, ça c'était le symbole, mais c'est vrai que ça fait beaucoup parler.
Elle vous rend fière, cette photo?
Bien sûr, elle nous rend tous très fiers dans l'équipe. C'est un peu dingue ce qui nous arrive. Et puis surtout, je suis très fier qu'un journal comme l'Équipe, qui s'adresse au plus grand nombre, ait osé cette une.
Une photo de Roberto Frankenberg. Alors, pour la diversité à la une de l'Équipe, c'est gagné. Pour la tolérance, pas encore. À côté des messages de félicitations, il y a eu pas mal de commentaires homophobes. Le community manager de l'Équipe s'est montré un peu débordé par ça. Il y a même eu un kiosquier parisien qui s'est dit homophobe face à un client qui lui demandait pourquoi il n'avait pas déballé l'Équipe magazine cette semaine. Beaucoup de réactions.
Oui, c'est sûr. Je pense que peut-être dans quelques années, cette une-là semblera banale. Mais bon, il faut bien commencer un jour. Et c'est vrai que cette une est historique. Donc c'est triste de voir ces propos. Et je plains le community manager qui doit passer un week-end un peu chargé aujourd'hui.
Alors si vous faites la une, Cédric Le Gallo, c'est pour une histoire qui a changé votre vie et inspiré un film dont vous êtes le co-réalisateur, Les Crevettes Pailletées, mercredi prochain sur les écrans. Avant toute chose, je dis aux auditeurs, oubliez tous vos préjugés sur les gays, le water polo, les films de piscine et le vernis à ongles. Vous allez rire et être ému face à un très bon divertissement populaire et même très populaire si le bouche à oreille fonctionne. Vous allez remplir les salles après avoir gagné le prix spécial du jury au Festival de l'Alpe d'Huez. L'histoire, pour avoir tenu des propos homophobes, un vice-champion du monde de natation est condamné par sa fédération à faire repentance en allant entraîner une équipe de water polo gay, les Crevettes Pailletées donc, et en l'amenant, cette équipe, en Croatie, pour les Gay Games. Voici dans le film la rencontre, la première rencontre entre ces deux univers.
Bonjour.
Bonjour. Salut, toi.
Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le water polo.
On semble à une bande de PD?
Je sais pas, non.
Et ben si.
Toi, t'arrives de province et tu veux rencontrer des hommes, c'est ça?
Non, c'est pas du tout ça, non.
Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, alors?
Il est venu casser du PD. Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie, mais pas de natation.
Ah bah, je vois que vous avez rencontré notre nouveau coach.
C'est une plaisanterie.
Alors, pas du tout, c'est la fédération qui nous l'envoie.
Ah d'accord, donc on est la caution homosexuelle d'une opération de manipulation médiatique.
Non, on s'est parlé et Mathias a été très touché par...
Par la cause homo.
Déjà, mais surtout par mes soucis de santé qui avaient mis en pause l'équipe.
Et là, on voit, Cédric Le Gallo, que la tolérance, ça devrait marcher dans tous les sens, mais que c'est pas toujours le cas.
Non, c'est vrai, c'est important de montrer que cette bande de potes gays n'est jamais d'accord entre elles. Il y a même certains qui n'aiment pas les lesbiennes, donc, et c'est souvent le même personnage d'ailleurs,
oui.
Qui a un problème avec
les transgenres. Oui.
Voilà, c'est parce que l'intolérance existe aussi chez les gays comme partout ailleurs.
L'amitié, la générosité contre l'intolérance. Et puis l'autre thème du film, c'est la fête contre la compète. Hein, dans le film, vos héros ont plutôt choisi le premier camp.
C'est ça. Bah, en fait, mais c'est ce qui est le cas dans la vie avec notre équipe.
Oui, dans la vraie vie aussi.
C'est-à-dire qu'on adore participer à des tournois, mais c'est vrai que ce sera jamais au détriment de la fête et de la bonne humeur.
Voilà. Le water polo, pourtant, c'est un sport extrêmement physique.
Ouais, c'est dur. C'est très dur. Ouais, c'est très dur. En plus, moi, j'ai commencé le sport à 30 ans, donc vraiment tard, parce que j'étais traumatisé des vestiaires, des cours de sport de collège. Parce qu'il y a une ambiance voilà, comme ça où justement la différence n'est pas tellement encouragée. Donc j'ai commencé le sport tard, mais c'est un sport extrêmement difficile.
Donc c'est un film de bande qui donne à voir des personnalités très, très différentes, une forme de famille. Et ces crevettes pailletées, c'est votre histoire. Mais dans la vraie vie, votre club s'était donné un nom
Anglais ?
Les Shiny Shrimps. Parce que comme on fait beaucoup de tournois à l'étranger, voilà, puis on a des grandes ambitions internationales.
Et c'est vous qui avez eu l'idée ? Du nom ?
Du nom, ouais, j'ai trouvé qu'un copain dans la piscine, un mercredi lors de notre entraînement, on était là, à truc, Shiny Shrimps.
Et voilà, l'un de vos hymnes ou l'une de vos chansons fétiches, c'est bien celle qu'on entend dans le film.
Everybody, summertime love, you'll remember me. Everybody, summertime love, be my lover, be my baby. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 get ready for my love.
Le détournement est assez drôle puisque la chanson originale était chantée depuis une piscine, mais par
Sabrina.
Qui s'appelait Sabrina et qui avait un soutien-gorge trop petit. Voilà.
Oui, c'était plutôt les hétéros qui aimaient bien ce clip.
Exactement.
On l'a un peu détourné.
Et vous avez effectivement participé aux Gay Games, mais à Orlando, en Floride.
Ça c'était non.
Non.
Non, ça c'était.
Ah bon.
Oui, j'ai vu traîner cette info dans un papier,
je
effectivement.
Non.
Alors, en fait, avant moi, parce que moi je suis arrivé il y a 8 ans, mais c'est vrai que mon équipe, ils sont allés un peu partout. Moi j'avais fait des games à Anvers, mais c'est vrai qu'eux ils sont allés partout. Ils sont allés en Australie. Il y en a qui sont là depuis 20 ans hein, dans cette association. Et moi je suis resté en Europe pour l'instant, mais on va à New York en juin prochain, parce que c'est les 50 ans de Stonewall. Qui était cette manifestation dans un bar où des policiers avaient fait une descente il y a 50 ans, donc dans ce bar new-yorkais à l'époque où c'était compliqué d'être homosexuel. Et c'est les 50 ans, Madonna est la marraine à New York cet été, enfin en juin, fin juin. Et nous, on y sera pour un match de water polo avec mon équipe. Un match cette fois-ci voilà, qui est très festif aussi et qui rassemble toutes les équipes du monde.
Alors ça, c'est la vraie vie. Mais de là à se projeter dans l'idée qu'on puisse... faire un film avec une histoire de waterpolo gay et des acteurs inconnus, c'est quand même une idée assez folle et un risque dingue, non ?
Ouais, mais je crois que c'était nécessaire d'avoir des acteurs justement pas suridentifiés pour qu'on y croie à cette bande de potes. Parce que c'est avant tout un film sur l'amitié. Et c'est vrai que là, ça fait 2 mois qu'on fait des avant-premières un peu partout en France. Et les gens, non seulement y croient, mais en plus s'identifient. Et des gens très différents, parce qu'il y a des familles, des grands-mères, il y a de tous les milieux qui viennent voir ce film. Et même des grands-mères à l'Alpe d'Huez, vous le citiez tout à l'heure, sont venues nous voir en nous disant « Mais j'ai reconnu ma bande de copines. » Donc c'est un peu fou d'avoir une identification comme ça.
Des grands-mères et aussi, c'est important j'imagine... des homos, des gays. Qui,
bien sûr, évidemment.
Il y a eu une projection il n'y a pas longtemps dans un festival.
Ouais, qui s'appelle Écran Mixte, que je redoutais un peu parce qu'il y a tellement peu de films qui représentent les homos.
Et encore moins de comédies.
Et jamais de comédies. C'est la dernière.
Pédale douce,
quoi.
95, je crois.
C'est ça, ouais, c'était il y a longtemps. Et donc, du coup, ils craignaient, je pense, ce film. Et moi aussi, je craignais leur réaction. Et c'est vrai qu'on a eu un accueil de dingue. Ils ont dû rouvrir une salle parce qu'il y a trop de monde. Ils nous ont applaudi pendant 10 minutes. On en était gênés tellement ils nous ont envoyé d'amour. Mais bon, c'était très beau.
Le message du film, c'est vrai que le galop.
Le message, c'est la tolérance. Et d'ailleurs, quelle que soit notre sexualité, c'est-à-dire c'est la liberté, la tolérance. Soyez qui vous voulez être. La vie est courte, donc profitez-en.
Cédric Le Gallo, Les crevettes pailletées, réalisées avec Maxime Govard. Mercredi prochain sur les écrans. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1.
Vous aimez les bidochons ? Ah, c'est un tout autre univers là qui va arriver.
Ah ouais, la BD, ouais.
Tout de suite, voilà. Binet, Christian Binet qui relance les bidochons pour un nouveau tome. C'est notre prochain invité. À tout de suite.
Europe 1. C'est arrivé demain la suite. Patrick Cohen.
Bonjour Christian Binet.
Bonjour.
Ou Binet tout court, comme il est inscrit depuis plus de 40 ans sur les albums dessinés des bidochons. Robert et Raymond, c'est donc vous qui les avez imaginés à la fin des années 70 dans Fluide Glacial où l'immense Gottlieb vous avait fait venir et qui les avait fait vivre depuis, sans qu'ils changent d'ailleurs, ils n'ont pas changé. Hein.
Bah, si, ils ont un peu évolué quand même. C'est un peu plus subtil qu'avant. Parce qu'au début, c'était vraiment des beaufs, disons-le, un petit peu. Et puis, petit à petit, ils sont affinés. Mais en fait, ils suivent, moi, ce que je suis, en fait. Hein, parce que aussi, quand on est jeune, en fait, les gens, les voit, c'est des blocs. Et puis, petit à petit, on apprend à les connaître. Et puis, on commence à affiner son jugement vis-à-vis des autres. Donc, bah, les Bideuchons, c'est un peu ça. Alors, comme c'est quand même du comique, en fait, c'est surtout même Bideuchon qui a évolué. Parce que lui, il est resté tel quel. Parce que, je veux dire, si vous voulez faire rire, il faut forcément qu'il y ait des contrastes. Si les deux évoluent en même temps, c'est pas drôle. Ouais. C'est le clown blanc et l'Auguste. Voilà, c'est ça. Hein. Il faut toujours. Ou monsieur et madame Jourdain, c'est pour reprendre un couple célèbre.
Mais ils n'ont pas vieilli, ou alors ils sont éternellement vieux.
Mais je ne peux pas les faire vieillir, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, si je les fais vieillir avec moi, je vais en fait ne plus intéresser que les gens qui vieillissent aussi en même temps que moi. Et puis, pour parler de quoi? Des problèmes de prostate? Non, je me sens complètement dans mon époque et j'ai bien plus envie de parler de tout ce qui se passe, y compris quand c'est pas spécialement attrayant comme sujet. Hein. Il y en a pas mal. Hein.
Ce qui a changé aussi, enfin, ça fait un moment déjà, c'est qu'ils ont perdu leur chien, Cador, celui qui lisait Kant et était exaspéré par les enfantillages de ses maîtres. Vous avez fait disparaître Cador.
Bah, fait disparaître Cador parce qu'en fait, les Bideuchons, c'est réaliste. Alors qu'avec Cador, c'était plus onirique. C'était, voilà, un chien qui parle, c'était difficile. Puis il est emmené à l'hôpital, qu'est-ce que je fais du chien? C'est pareil. Il y a beaucoup de...
Ces Bideuchons, Binet, vous ont apporté un succès considérable. Combien d'albums vendus?
Alors, plus de 7 millions pour les Bideuchons, mais plus de 10 millions pour l'ensemble de mes livres.
Ouais. 10 millions, ça fait c'est l'un des plus grands succès de la BD d'humour. Et puis des adaptations au théâtre, au cinéma. C'était d'ailleurs Anémone qui jouait Raymond.
Exactement.
Anémone dont on a appris la mort il y a quelques jours.
Ouais, et donc j'étais à la radio quand on me l'a annoncé, ce qui est toujours un peu déstabilisant parce qu'effectivement, je l'ai rencontré. Moi, j'avais été sur le tournage, donc on avait parlé, sympathisé. Surtout, c'était une voix parce qu'il y avait Marielle qui était morte juste avant, qui était déjà une voix. Et puis, moi, ce qui revient chez Anémone, c'est sa voix aussi, espèce de gouaille qu'elle avait, etc.
Ce succès, quel rapport ça vous donne à vos personnages, Raymond et Robert? Vous les trouvez attachants ou parfois ils vous ont semblé encombrants?
Ils sont toujours encombrants. Je crois que Simenon disait la même chose
avec
son Maigret, parce que finalement, on ne vous connaît surtout que grâce à eux. Je crois que tous les auteurs qui font des succès comme ça à répétition ont envie de les tuer à un moment donné. Et en fait, on ne le fait pas. Avec le temps, on se dit que finalement, on l'a bien fait parce que c'est une vraie rente. Donc, ça permet de faire à côté des choses dont on sait qu'ils se vendront moins. Mais au moins, moi, quasiment, j'aurais pu arrêter de travailler il y a 20 ans. J'entends le tiroir caisse, ça fait gling, 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 ça tombe. C'est dingue, quoi. Je souhaite ça à tout le monde.
Et puis, fierté et consécration, leur nom est devenu un substantif. Même si parfois, ça peut vous agacer quand on dit d'un beauf qu'il est un Bideuchon.
Oui, parce que pour moi, ce n'est pas les mêmes. Le beauf, c'est le personnage de Cabu, qui vote extrême droite, qui boit, c'est le vrai con. Vous ne trouvez pas ça chez les Bideuchons, c'est très bien rangé. Même Bideuchon a toujours un tablier. Oui. Il ne roule pas sous la table à coups de gros rouges, etc. Ils essaient de s'adapter. Donc, c'est un personnage très différent. Ils sont plus français moyens que le beauf de Cabu.
Le succès de vos histoires, c'est la situation et le dialogue, le bon mot.
Ah ben moi, j'ai appris mon métier pas par les gens qui dessinaient, mais par les gens qui écrivaient. J'ai commencé par Molière, Feydeau, Labiche, et puis des gens comme Capra, René Clair, que j'adore, etc., Lubitsch, etc., enfin tous ces gens-là. Mais c'était non seulement les mots, mais c'était aussi la mécanique du gag, parce que moi, comme je fais de l'humour, et ces gens-là savent parfaitement comment amener un gag. Voilà, ça j'ai appris beaucoup avec eux.
Et donc, revoici Raymond et Robert après 6 ans d'absence. Tome 22 chez Dargo. Les Bideuchons relancent leur couple. Enfin, c'est le titre, mais pour être plus précis, c'est Raymond qui essaie de relancer la sexualité de son couple par des gadgets divers et variés, auxquels Raymond d'ailleurs reste souverainement indifférent. En gros, c'est ça.
Bah, c'est toujours le cas. Hein. Tous les sujets que j'ai abordés, le téléphone, Internet, etc., c'est toujours elle qui amène la nouveauté
voilà. À la maison.
Et puis lui, il est pantouflard, il n'a pas envie de se bouger, de changer ses habitudes, etc. Bah, en plus, en ce qui concerne le sexe, lui, ça lui va très bien.
Hein. Bon.
Mais le sujet arrivait un petit peu comme ça d'ailleurs aussi, parce que vous aviez les réunions Sex Toys par exemple, j'ai une amie de mon épouse qui y a participé, mais c'était la même qui avant faisait des réunions ustensiles de cuisine en plastique.
Oui, d'accord. Oui.
Voilà, mais c'est les mêmes. Oui. Donc là, je me suis dit que ça, les choses avaient changé, parce que ce qui est intéressant dans les sujets que j'aborde, c'est quand ça modifie nos comportements. Oui. Alors il y avait ça, puis le fait de voir des vibromasseurs dans les grandes surfaces, c'est là qu'on se dit il y a quand même une évolution quelque part.
C'est pas la première fois que les Bidochons s'intéressent au sexe. Il y avait déjà tout un album, c'était matin, midi et soir.
Ouais, mais enfin, il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres choses. C'était un peu la vie intime du couple. Mais là, en plus, j'ai rajouté, parce que je ne pourrais faire que sur le sexe. Donc, il y a aussi un autre phénomène, mais qui va, ce qu'on pourra appeler, pour résumer, par le cœur épanoui. C'est-à-dire, c'est les changements de comportement chez les hommes, par exemple, qui vont de plus en plus dans les instituts de beauté. Tout ça, j'ai fait un mixte. Et puis, c'est pour ça que quand c'est son anniversaire, au lieu d'avoir comme d'habitude, je sais pas, des trucs qui passionnent lui, je sais pas, une entrée pour un match de foot par exemple, ben on lui offre une invitation, enfin un carton pour se faire épiler. Donc évidemment, ça c'est pas vraiment son truc, quoi.
Les Bidochons vont continuer leur vie, Binet?
Bah, tant que je continuerai la mienne, c'est ça le problème. J'arrive à 72 ans, je commence à me sentir que j'aurais peut-être pas le temps d'en faire encore beaucoup comme
mais
ça.
Mais pas en panne d'idées? Vous avez des idées?
Non, parce que comme je suis quelqu'un de très curieux qui n'arrête pas de bouffer tout ce qui passe, etc., parce que tout m'intéresse, en fait, mon univers s'élargit de plus en plus. C'est ce qui m'a toujours un peu frappé chez souvent les auteurs, c'est qu'ils ont un créneau, ils y restent. Et moi, en fait, tout m'intéresse. Je veux dire, si quelqu'un est passionné par un potager ou les légumes, moi, tout de suite, j'ai envie de l'écouter. Donc j'apprends plein de trucs comme ça depuis que je suis petit. Ne serait-ce que parce que quand j'étais petit, on me disait que j'étais bon à rien, que je ne ferais jamais rien de ma vie. Donc en autodidacte, en fait, j'ai appris la musique composée, je suis joué par les orchestres, enregistré, je fais de la peinture, des expos, etc. Et sans en fait jamais avoir pris de cours, puisqu'on m'a dit que ce n'était pas pour moi.
Donc ce sont des univers que vous pouvez découvrir et éventuellement faire découvrir au Bidochon, et ça peut donner matière à un nouvel album.
Ah bah oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Après moi, j'attends un peu que la société ou me fournisse de nouveaux sujets, oui.
Merci beaucoup, Binet. Les Bidochons relancent leur couple. C'est donc le tome 22 qui paraît chez Dargaud. Merci à vous.
Merci, Patrick.
Retrouvez C'est arrivé demain tous les dimanches de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.